Et c'est dans la bonne humeur qu'on se retrouve pour un nouveau rendez-vous des experts sur Carnews. J'ai le plaisir d'être avec Thierry, Alain de Keralin et Yannick Dagneau. Aujourd'hui, c'est Alain de Keralin, notre ami de la boule, l'ami qui a 11 000 amis. Ou en général, quand on en a beaucoup, ce qu'on a... mais en fait, ce qui compte, c'est en avoir peu.
Alors, on a effectivement, au sein de ces 11 000 amis, des cercles un petit peu plus fermés. On a un cercle qui s'appelle le cœur des amis de la Baule et qui se réunit régulièrement. Ouais. Voilà. Dont vous faites
un
partie,
sujet,
mon cher Yannick.
Aussi, un sujet, cher.
Eh bien, moi, je pense, alors, mon métier, c'est de recruter des talents, de chercher des talents rares. Aujourd'hui, il y a effectivement un comportement, enfin, une inversion totale. Les candidats, aujourd'hui, sont devenus exigeants parce que ils sont rares, les compétences sont rares, et il y a une inversion totale. Donc c'est le candidat qui fixe les règles du jeu. Et c'est très intéressant parce que il y a effectivement une
pénurie. On est dans la culture du non-travail, ça pourrait être ça le
Alors,
sujet.
Je pense que déjà, la période du confinement a changé la donne. Les gens aujourd'hui ont besoin de donner du sens à leur vie professionnelle. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, mais il y a une prise de conscience. Dans cette période où les gens se sont retrouvés seuls, isolés chez eux, en télétravail pour beaucoup, de comprendre quel était finalement leur place dans l'environnement du travail, et les gens aujourd'hui recherchent du sens. Et c'est très intéressant parce que ça modifie totalement la valeur travail.
Dire quoi le sens ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de mépris ? Parce qu'une brave dame qui élève seule ses deux enfants, qui prend son RER, son train de banlieue à 5h du matin pour aller faire des ménages, peut-être que son travail n'a pas de sens, mais elle est suffisamment méritoire, elle mérite notre respect si elle fait des ménages toute la journée, parce que le sens de son travail, c'est déjà nourrir ses gosses, parce qu'elle a été abandonnée par son mari.
Mais elle apporte j'entends, mais elle apporte aussi du sens à la vie de l'entreprise.
Elle sait qu'elle fait un métier.
Si on travaille dans des locaux sales, c'est pas très agréable pour tout le monde. Elle participe à un tout. Et l'idée, c'est de comprendre en quoi je participe dans mon travail. Comme disait Saint-Exupéry, si tu veux construire un bateau, il suffit pas de rassembler des matériaux et des ouvriers, il faut leur parler du voyage, il faut leur parler de la mer. Et je crois que c'est important qu'un chef d'entreprise puisse embarquer ses collaborateurs dans un projet.
Oui. Le travail et le non-travail.
Alors, je rebondis sur votre dernière phrase, c'est aujourd'hui... Est-ce que là où les générations de chefs d'entreprise, parce qu'on a quand même de jeunes chefs d'entreprise, mais on a aussi des chefs d'entreprise qui sont âgés, voire des entreprises familiales, ont-ils cette notion d'associer leurs employés, leurs ouvriers, leurs cadres à ce projet d'entreprise ? Parce que de ce que j'en sais, mon épouse, moi je suis à la retraite, mais mon épouse travaille dans une société, et ce n'est pas cette image-là qui transparaît dans ce qu'elle m'en dit. C'est-à-dire que le management à l'ancienne existe toujours, et ces jeunes qui sont à même de rentrer dans des entreprises et ont suivi des cursus scolaires, universitaires, différents. Vous êtes chasseur de tête, vous ne chassez pas l'ouvrier, vous chassez le niveau, le haut du panier, on va dire.
Le middle
et le... Est-ce qu'il n'y a pas justement...
Au prix des prestations de son cabinet...
De conflit générationnel au sein des entreprises, justement, entre les dirigeants qui arrivent peut-être en fin de vie, et puis ces jeunes qui voudraient concilier à la fois le travail et les loisirs.
Eh ben oui, alors effectivement, les jeunes veulent un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, mais aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont contraints d'accepter, justement, en proposant aux candidats, justement, 2 jours de télétravail, en acceptant un certain nombre de compromis ou de caprices, ça va. Donc, c'est la tendance générale. Aujourd'hui, on ne peut pas attirer une mouche avec du vinaigre. Et quand il y a une pénurie de compétences, on est bien obligé d'aller et de proposer, effectivement, des conditions de travail qui sont quand même plus agréables. Et c'est comme ça que les entreprises se différencient, justement. Et je pense qu'il y a Il y a effectivement les grandes entreprises et les petites entreprises. C'est une grande entreprise va proposer un certain nombre d'avantages, des comités d'entreprise, des vacances, des lieux, alors qu'une petite entreprise n'aura pas les mêmes capacités d'attractivité.
Pour avoir travaillé longtemps dans un grand groupe, moi j'ai vu deux grands problèmes. Le premier, c'est la hiérarchie aiguë. D'ailleurs, on parle de retraite aujourd'hui, mais on compare jamais la vie de l'entreprise espagnole avec la vie de l'entreprise française, la vie de l'entreprise allemande avec la vie de l'entreprise française. Les Français ont la maladie de la hiérarchie. C'est le N plus 1, comme on dit, comme on aime bien dire. D'ailleurs, le terme est déjà assez méprisant, N plus 1. Le N plus 1, donc, n'accompagne pas son équipe. Il la dirige. Il la dirige verticalement, trop verticalement, beaucoup trop verticalement. Et la vie de l'entreprise française manque de souplesse. Les gars sont sympas à la cafétéria, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas un accompagnement. Or, ce sont les premiers de cordée, pour prendre un exemple qui a été dans l'actualité il n'y a pas longtemps. Et la vie de l'entreprise française est beaucoup moins bonne que la vie des entreprises étrangères. Donc quand on compare les durées de travail d'un pays à l'autre, on devrait aussi s'intéresser à la vie à l'intérieur de l'entreprise.
Alain, est-ce que ce n'est pas aussi lié aux lois sociales ? Quand on voit qu'on a tellement de lois sociales que les entreprises sont obligées de mettre des normes, de hiérarchiser, de tout boucler, parce qu'en réalité, on ne peut plus rien faire. Une fois que la personne est recrutée, elle est là à vie. Alors qu'aux États-Unis, on peut être très cool, finalement, on peut tolérer des petits écarts, parce qu'on sait que si ça dure, on dit, tu fais tes cartons, et tu pars.
Bien, c'est, en fait, les lois sociales, parfois, sont contre-productives, par exemple. On recrute quelqu'un qui a 55 ans, on ne peut plus le licencier. Donc, c'est un avantage qui devient un inconvénient. Donc, pourquoi recruter quelqu'un qui a plus de 55 ans, puisque le risque, c'est de ne pas pouvoir le licencier. Donc, ça devient vraiment... Et je pense que c'est la même chose pour le logement, par exemple. Si un locataire qui a plus de 60 ans, on ne peut plus...
Donc, on ne va plus louer à des gens qui ont plus de 60 ans.
Je pense que les lois, elles sont là pour protéger. En fait, elles vous enferment. Elles vous enferment totalement. Donc, il faut libéraliser toutes ces lois. Et je pense qu'on est dans un pays... vraiment qui nous emprisonne avec des lois inutiles et plutôt négatives.
Tout ça, on l'entend depuis 30 ans, depuis 40 ans. Ça fait 40 ans que je suis sûr que vous entendez cela vous-même.
C'est certain. Et le risque, effectivement, on parle de l'emploi des seniors. Il faut voir le nombre de seniors.
Ça, c'est le plus important.
Qui sont au chômage. Alors, effectivement, quand on est senior, on a intérêt à être un spécialiste, un expert. Là, on a la possibilité d'être recruté parce qu'on apporte une valeur ajoutée. Si on est généraliste, on est concurrencé par les jeunes qui arrivent et qui sont beaucoup plus flexibles, plus malléables. Donc, on n'a aucune chance d'un avenir professionnel.
Oui, mais est-ce que le senior ne va pas être plus pointilleux, il va vérifier les choses deux fois, il va plus rentrer dans la vie de l'entreprise.
Il va être plus lent, moins audacieux, et les entreprises ont besoin aussi d'audace, à un moment donné. Ils ont besoin
C'est pour... Alors là, mon cher Alain, quand je vois des groupes du CAC 40 qui publient des tweets avec leur logo officiel, ça a été audacieux par des soi-disant community managers et des fautes d'orthographe. À chaque phrase, il y a des baffes qui se perdent. Donc moi, je préfère largement avoir un community manager qui a 55 balais, qui va peut-être mettre une heure pour rédiger un tweet et qu'il va le relire 5 fois, parce que quand c'est un tweet qui engage une entreprise du CAC 40, lui, il va le peser.
J'entends bien, Yannick.
Le gars va se précipiter, mon cher, il va faire des fautes d'orthographe.
Mon cher Yannick, vous connaissez beaucoup de seniors qui créent des startups ?
Oui.
Ah, moi, j'en connais pas beaucoup.
Bah vous-même, vous en avez fait une presque. On faisait une start-up avec 11 000 personnes.
Et moi, je suis un jeune senior.
La culture du non-travail. Yannick, vous, dans votre expérience de policier, vous n'avez jamais connu. Ce n'est pas des sujets. Parce que les policiers sont une vocation. On ne devient pas policier par hasard.
Mon papa était policier, donc je suis rentré parce que j'étais pas forcément... un petit peu agité en lycée, et puis j'aurais voulu être un CID. Bon, je suis né des policiers, c'est une autre façon de faire l'éducation. Mais tout est lié. une fois de plus, on en revient, c'est...
Comme quoi une vie peut basculer. Hein. Imaginez, elle aurait été un style. On aurait eu un gars avec les cheveux longs, là.
Hein, j'ai les cheveux courts.
Une veste en tweed.
C'est ça, oui.
Un pantalon de velours. Mais il écouterait France Inter, quoi.
Exactement.
Comme quoi, mais ça peut vriller, maintenant.
Il y avait quand même des... En termes d'éducation, moi, j'ai quand même connu une époque de police où nous faisions ce qu'on appelle de la proximité. Nous étions... Alors, c'était pas la police de proximité de... Voilà.
Les hirondelles.
Mais alors, non plus les hirondelles, j'ai fait une phase intermédiaire, nous étions les îlotiers. Et effectivement, nous avions un rôle, quelque part, social, et un rôle de renseignement, qui s'est perdu par justement...
Un rôle de service public, finalement.
Non mais voilà, mais c'est ce que je disais précédemment, le service public, et le service pour le public et au public, ce qui a totalement disparu. J'en profite. Faites faire votre carte nationale d'identité ou votre passeport aujourd'hui, combien de mois faut-il ? Voilà.
Ouais, tout ça. Voilà.
Mais je n'ai jamais souffert, effectivement, j'ai pas connu dans ma vie de période de chômage, j'ai pas connu de soucis de patron, puisque j'ai toujours eu le même pendant 37 ans, l'État.
Ouais, mais les ministres de l'Intérieur changent.
Ils changent. Et puis ils amènent tout avec eux. Les réformes, j'en ai connu je ne sais combien. Et
puis rien ne change.
Quand on voit aujourd'hui dans quel état c'est arrivé, c'est déplorable, quoi. Mais une fois de plus, on se repose sur le privé. J'ai connu des grands criminologues, des marchands de peur, comme on les appelait à une certaine époque, qui privatisent tout un tas de missions de service public. Et la sécurité, c'est une mission régalienne et qui est totalement oubliée.
Tout ça, on partait sur le travail et le
recrutement. Oui, mais c'est le travail, du travail.
Voilà. On n'a pas entendu beaucoup Thierry sur ce sujet.
Parce que je ne suis pas policier.
Non, mais sur le travail.
Non, le travail, alors là, je vais être sérieux, le travail, il participe à la construction d'une vie. Par conséquent, il n'y a pas de vie réussie sans construction de travail qui l'accompagne. Donc, on doit aider un type de 60 ans parce qu'il n'a pas fini sa vie. À continuer à construire sa vie, donc à lui donner du travail et à profiter de son expérience.
Les seniors sont des porteurs de savoir, ils sont là pour transmettre, pour la transmission. Et moi, je pense qu'effectivement, il faudrait utiliser toutes ces compétences jachères pour apporter, pour transmettre, pour accompagner, pour mentorer, pour faire du mentoring, comme on dit, auprès des jeunes. Parce que les jeunes savent tout, mais en fait, ils savent rien, souvent. Ils ont appris des choses très, très abstraites.
Ils apprennent avec l'expérience.
Ils apprennent avec le vécu.
Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un système, par exemple, de permettre aux seniors, en complément de leur retraite, en tant que salariés, parce qu'ils peuvent le faire en tant que chef d'entreprise, peut-être à 70 ans, 75 ans, de travailler ne serait-ce qu'un jour par semaine ou deux jours, pour ne pas être déconnecté, et que ça ferait un beau supplément de retraite. L'impression qu'en matière de charges sociales, de fiscalité, tout ça n'est pas pris en compte par l'État. Certes, ils peuvent le faire.
C'est pas facile à faire, parce qu'un jour par semaine, le gars, il est forcément déconnecté du reste. Il prend le dossier en cours, il prend, à moins de lui donner son propre dossier, et voilà, il le règle à son rythme. Ça, c'est peut-être jouable, mais il faudrait que les managers...
Selon les professions.
C'est vrai que personnellement, moi, je suis un partisan de la retraite progressive. 4 jours, 3 jours, jusqu'à l'arrêt définitif. Dans cette période, justement, où on a plus de vie privée, plus de vie personnelle, mais on transmet, on garde toujours un pied, on garde un statut. Souvent, la retraite, c'est une perte de statut, on le sait très bien, et beaucoup de gens sont perdus un peu. Ils se retrouvent aussi en famille, alors qu'ils étaient isolés, enfin, ils étaient à l'extérieur tous les jours. Et je pense qu'il y a un problème de perte de statut.
Oui, et le système français, que ce soit dans le système privé ou le système administratif, ne prévoit pas justement la reconversion professionnelle des seniors au sein de leur entreprise, au sein de leur fonction publique. J'ai du mal aujourd'hui à concevoir, alors je reste toujours dans mon domaine, mais qu'un policier qui va arriver à l'âge de la retraite à 64 ans puisse courir après un voleur de mobilette ou un voleur de sac à main. Vous voyez ?
Et il peut prendre tous les dossiers de l'enquête en cours, orientés en fonction de son historique sur un secteur.
Sauf que ce n'est pas prévu. Et on trouve des jeunes dans les bureaux et des vieux sur la voie publique et dans toutes les administrations. Et je regardais un reportage il y a quelques jours de cela sur un cantonnier, ça s'appelle plus comme ça, mais un agent d'une fonction publique territoriale dans une mairie, à 64 ans, il est en train d'étaler du sel pour déjeuner la route. Et comme il disait, il se faisait aider par un plus jeune. N'est-il pas plus utile à un poste sédentaire dans cette même administration, et alors que peut-être qu'il y a un jeune qui, ça lui ferait du bien d'aller mettre du sel à la place de l'ancien. Mais ce n'est pas prévu, ce n'est pas dans la mentalité française. On doit être au top jusqu'au bout.
Bah, c'est dommage. Ouais, c'est dommage.
C'est regrettable.
De même, on parle de déserts médicaux en région, dans toutes les régions de France. Pourquoi les médecins à la retraite ne vont pas chercher dans les universités les meilleurs médecins? Ils ont l'expérience pour les regarder, pour les voir, et les renvoyer vers les médecins en activité qui, eux, n'ont pas le temps de trouver des jeunes étudiants valeureux, compétents. Ça pourrait être les médecins en retraite qui le fassent.
Tout à fait.
Sous la forme d'une suggestion. C'est pas quelque chose, encore une fois, de hiérarchique et de vertical, mais il pourrait dire à tel médecin, bah, tu vas prendre ta retraite dans 2 ans, et ben moi j'ai un tel, est-ce que tu veux les rencontrer? Ce sont des mecs bien, des mecs qui ont l'air compétents, rencontre-les.
Je pense qu'il faudra aussi alléger la fiscalité, justement, permettre à des professionnels des vacations qui n'incitent pas à des charges lourdes, mais qui accompagnent justement des jeunes en situation, des jeunes en poste.
Merci. Alain de Kerlin, d'avoir ouvert ce débat sur la vision du travail depuis le confinement, finalement, cette vision, cette approche du travail qui a beaucoup changé. Et voilà, aujourd'hui, on est avec Thierry, Alain de Kerlin et Yannick Dagneau. Merci à vous.